Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter la foule.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Bonsoir.
Bonsoir, il est 19h06 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure.
C'est l'heure du Canu Info du lundi, et on commence tout de suite avec les titres.
À l'international, on va parler de la cyberingérence de l'armée française en Afrique, puis on fera un point sur la situation au Sahara occidental.
Au national, on n'aura qu'un sujet, on va parler de génération identitaire.
Et au local, on aura plein de reportages avec un reportage sur le rassemblement devant la Turin City contre la répression d'un cheminot, un reportage sur le rassemblement devant le CRA pour l'abolition des CRA et un petit reportage sur le rassemblement de vendredi 18 décembre en solidarité avec les sans-papiers de Lyon.
Et puis on commence tout de suite avec une brève, puisqu'on n'en a qu'une pour aujourd'hui, c'est sur General Electric, puisqu'on vous avait déjà passé un petit reportage sur la grève qui s'est passée à Villeurbanne. En tout, ils ont fait 3 semaines de grève, au bout desquelles ils avaient enfin pu négocier et ils avaient obtenu des choses oralement à la fin de la dernière semaine de grève. Malheureusement, le lundi suivant, c'était donc lundi dernier, surprise, tous les accords avaient disparu. Apparemment, c'était juste des promesses pour leur faire reprendre le travail. Et on voulait juste vous dire que donc, en réaction immédiate, plusieurs salariés avaient entamé une grève de la faim le jour même. Grève qui avait duré 3 jours, puisque suite à celle-ci, ils ont finalement réobtenu certaines choses, même si pas tout. Et puis il aura fallu de longues négociations mercredi, puisque les négociations ont duré de 15h à 22h. Au final, ils ont quand même sauvé 80 postes, sur plus de 200 quand même. Ils ont obtenu le remplacement de la prime de production qui avait été supprimée, mais les conditions seront négociées en janvier seulement. Et puis, ils ont aussi négocié une prime de présence sur le mois de janvier. Bon, les conditions sont un peu difficiles pour la toucher, puisqu'il faut être présent absolument tous les jours, sans grève ni maladie, évidemment. Et puis, donc les patrons de General Electric acceptent de négocier des plans de licenciement, mais ça, ça sera encore à suivre. Voilà, donc comme ce qu'ils ont obtenu reste assez léger, ça sera une affaire à suivre en janvier.
Et on enchaîne donc avec la rubrique internationale. Et on commence par la cyberingérence de l'armée française en Afrique.
Ouais, figurez-vous que Facebook a découvert un réseau de faux comptes pro-France liés à l'armée française ainsi que des comptes pro-russes liés à l'armée russe se faisant passer pour des locaux dans plusieurs pays d'Afrique et en Moyen-Orient afin de manipuler les opinions. Plus précisément, Facebook explique dans un rapport publié tout récemment avoir détecté des centaines de faux comptes à comportement coordonné sur sa plateforme et sa filiale Instagram liés à 3 réseaux. Les 2 premiers initiés par l'agence russe de recherche Internet liés à l'oligarque Evgeny Prigogine, actionnaire de l'entreprise militaire, mercenaire, privée Wagner, très actif dans plusieurs zones de conflit dans le monde, au Donbass ces dernières années, en Syrie, en Libye et visiblement dans plusieurs autres pays africains. Quant au 3e réseau, il est tout simplement français, directement lié à l'armée française, avec une importante activité de désinformation, notamment au Mali et en République centrafricaine, mais aussi quasiment partout où l'armée française est présente et où la France mène des politiques impérialistes pour les beaux yeux des multinationales françaises, Algérie, Niger, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Tchad. Bref, les anciennes colonies, quoi. Le rapport de Facebook détaille un peu plus les contenus et buts de ces faux comptes. Je cite. Les personnes à l'origine de cette activité ont utilisé de faux comptes pour se faire passer pour des locaux dans les pays qu'ils visaient, publier et commenter des contenus et gérer des pages et des groupes. Ils publiaient principalement en français et en arabe des informations et des événements d'actualité, notamment sur la politique de la France francophone, la situation sécuritaire dans certains pays africains, des allégations d'interférence potentielle de la Russie dans les élections en République centrafricaine, des commentaires de soutien sur l'armée française et des critiques sur l'implication de la Russie en RCA ou ailleurs. Un petit exemple donc de page Facebook, l'impérialiste russe gangrène le Mali. Attention à la lobotomisation tsarienne. Double smiley, flamme, flamme. Ah oui, pour rappel quand même, Macron et son équipe dénonçaient en 2017 la Russie qui tentait d'influer sur le résultat des élections au profit de Fillon ou Le Pen. C'est marrant quand même, car il est bien évident que si l'armée française se permet d'essayer de manipuler les populations de ses anciennes colonies, c'est avec l'aval de son état-major, François Lecointre en l'occurrence, qui a d'ailleurs refusé de répondre aux questions des journaleux de BFM TV, donc avec l'aval du ministère des Armées et de Florence Parly, et donc avec l'aval de l'Élysée et de Macron. Alors autant on savait que la France soutenait politiquement, militairement et économiquement les pires dictatures en Afrique afin de pouvoir continuer à piller tranquille les ressources naturelles et exploiter la force de travail quasi gratos, qu'elle n'hésitait pas à faire intervenir des services secrets et son armée depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui de manière quasi permanente pour alimenter ou mater tel ou tel conflit ou élection selon ses propres intérêts. Ce qui est nouveau ici, c'est que c'est l'une des premières fois qu'une puissance occidentale, dite grande démocratie, se voit directement accusée de vouloir manipuler l'opinion publique avec ce type de méthode.
Et on enchaîne donc avec le Sahara, maintenant toujours à l'international.
Et oui, ça fait quelques semaines que le cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario est rompu, depuis le 13 novembre pour être exact. On reviendra juste après sur ce conflit et ses racines. On en avait très rapidement parlé la semaine dernière suite aux déclarations de Trump qui reconnaissait unilatéralement la souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui, alors même que l'ONU considère ce territoire comme un territoire non autonome, c'est-à-dire non décolonisé. L'Allemagne a donc appelé à un conseil de sécurité sur le sujet qui se tient aujourd'hui et qui devrait à peu près servir à rien, donc on n'en parlera pas plus. Alors concrètement, que se passe-t-il ? Après près de 30 ans de paix, somme toute relative, les combats ont repris depuis plus d'un mois dans la zone tampon de Guerguerat. Donc Guerguerat, c'est tout au sud du Sahara occidental, à la frontière avec la Mauritanie. Alors déjà, c'est quoi le Sahara occidental ? C'est un territoire de 266 000 km² qui est situé entre le Maroc et la Mauritanie, qui est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par l'Algérie. Sur la plupart des cartes, vous pouvez le repérer très facilement, sa frontière avec le Maroc est en général représentée par des pointillés. Pour comprendre un peu mieux tout ça, on va faire un petit bond en arrière, enfin un grand bond en arrière. Donc à partir de 1884, l'Espagne colonise le Sahara, pendant que la France, elle, colonise le Maroc. En 1956, on le sait, le royaume du Maroc obtient son indépendance. Le Sahara occidental reste, lui, sous le joug espagnol jusqu'en 1975. Et donc en 1975, quand l'Espagne décide de se barrer, elle file une toute petite partie du nord du Sahara occidental au Maroc et une petite partie au sud à la Mauritanie, avec l'idée qu'un référendum déterminera le sort du reste du territoire. Je vais essayer de la faire courte. À ce moment-là, Hassan II, c'est le papa de Mohamed VI. Mohamed VI, c'est le roi maintenant. Donc Hassan II, qui était roi à l'époque, décide de récupérer Fissa, ce grand territoire, cette grande porte ouverte vers l'Afrique subsaharienne, aussi une immense réserve halieutique. Et pour rien gâcher, les Espagnols y avaient découvert les premières mines de phosphate en 1947. Et puis bon, il faut dire que ça double quand même la surface du royaume marocain, et ça, c'est pas rien. Hassan II, en 1975, lance donc la Grande Marche Verte, qui va avoir se déployer 350 000 volontaires pour récupérer et aller coloniser démographiquement ce territoire, avant que l'Espagne se retire définitivement. En parallèle, la résistance, elle s'organise sous l'égide du Front Polisario, le Front Polisario qui avait été créé en 1973 pour combattre l'occupation espagnole, et qui du coup va devoir combattre maintenant l'occupation marocaine. En 1976, le Front Polisario proclame la RASD, la République Arabe Sahraoui Démocratique, qui est aujourd'hui reconnue par 24 pays. En 1980, le Maroc, de son côté, entame la construction d'un mur entouré de tout plein de mines antipersonnelles et qui marque la limite de sa domination sur le territoire. Après ça, s'en suivra 30 années de guerre, l'exil de près de 165 000 Sahraouis déplacés dans des camps pour la plupart du côté algérien de la frontière. Alors, je précise que l'Algérie est le premier soutien du Front Polisario pour plusieurs raisons, mais clairement déjà d'une part pour affaiblir sa grande rivale sur la péninsule, donc le Maroc, mais aussi parce que ça lui donne un accès privilégié à la façade atlantique qui, on le sait, est un enjeu géopolitique important. Donc après 30 années de guerre, il y a un cessez-le-feu qui est décrété en 91. Une mission de l'ONU, la MINURSO, est déployée avec comme ambition de permettre la tenue d'un référendum d'autodétermination. Mission qu'on peut à peu près résumer en deux mots, échec total. Donc aujourd'hui, les principales villes sahraouies, Laayoune et la magnifique Darla, sont peuplées par des Marocains et surtout de très très nombreux militaires. Il n'y a plus beaucoup de Sahraouis en fait au Sahara occidental du fait de ces déplacements de population. Depuis 91, il y a eu pas mal de soubresauts du conflit, mais souvent incarnés par des manifs, hein, des luttes sociales autour des conditions de vie des Sahraouis, se rester sur le territoire. À Darla, par exemple, les licences de pêche empêchent les Sahraouis d'accéder à la principale source de nourriture et de revenus du territoire, alors même que d'immenses chalutiers espagnols et marocains pillent les ressources halieutiques, sous la bonne garde, bien évidemment, de navires patrouilleurs construits en France. Tiens, encore un conflit où les armateurs français alimentent les exactions d'un pays contre toutes les prérogatives des traités internationaux, notamment sur la vente d'armes. Bon, rien d'étonnant sous le soleil. En termes onusiens, ce que fait le Maroc depuis 30 ans, ce sont des crimes de guerre, de colonisation et de pillage des ressources naturelles. Mais visiblement, ça ne pose pas trop de problèmes à nos armateurs. Alors voilà pour le tableau. Qu'est-ce qui s'est passé à Guerguerat en novembre? En gros, donc, c'est une zone tampon, je le disais, qui est tout au sud. Et le Maroc a lancé une grande opération militaire pour rouvrir la porte vers la Mauritanie et a donc violé à ce moment-là les accords de paix de 91. Alors, pour le chef de la diplomatie marocaine, cette opération n'est pas offensive, mais elle correspond, je cite, à la fermeté et la détermination du roi du Maroc Mohamed VI pour trouver un règlement définitif face aux provocations du Front Polisario. Alors oui, les Sahraouis bloquent effectivement régulièrement la seule route qui relie le Maroc à l'Afrique subsaharienne parce que c'est un point de levier et de pression extrêmement stratégique. Pour ce qui est des combats en ce moment, on sait assez peu de choses puisque le royaume marocain organise un véritable blackout médiatique depuis un mois en empêchant les journalistes et les observateurs internationaux de se rendre sur place. Le royaume tente de museler la contestation mais aussi la communication sahraoui avec un relatif succès malheureusement, il faut le dire. On sait ce qu'on sait à peu près, c'est que les Sahraouis sont victimes de harcèlement policier constant. Par les forces d'occupation, d'arrestations arbitraires, y compris d'enfants, et qu'il y a eu beaucoup de perquisitions, mais c'est à peu près les seules choses qu'on a, on a très peu d'images. Et donc aujourd'hui, l'ONU se réunit pour statuer sur une position commune. Alors les récentes déclarations de Trump, elles ne sont pas du tout rassurantes, évidemment, hein, dans ce contexte, même si on imagine que les autres pays membres ne se positionneront pas avant l'intronisation de Joe Biden le 20 janvier prochain. On espère que les Sahraouis sauront résister à cette nouvelle offensive marocaine et qu'ils obtiendront enfin le droit à prendre en main leur propre destin.
Et on enchaîne avec le national maintenant.
Ouais, au national, donc, un sujet sur la relaxe des militants de Génération Identitaire suite à leur action anti-migrants dans les Alpes en 2018. Rappelez-vous, printemps 2018, Génération Identitaire, habituée des coups médiatiques, lance une opération nommée Defend Europe / Mission Alps. Oui, car Defend Europe, c'est une campagne, une mission lancée en 2017 par Génération Identitaire pour, comme son nom l'indique, défendre l'Europe des hordes de migrants qui viennent voler le travail des vrais Français. Ouais, voilà, c'est à peu près le niveau de ce groupe placé sur la droite de l'extrême droite de Marine Le Pen et du Rassemblement National. C'est un groupe qui d'ailleurs est très implanté à Lyon via ses locaux dans le Vieux-Lyon, la Traboule et la Gaugée notamment, respectivement local bar aux 5 montées du Change, donc dans le 5e arrondissement, et salle de boxe. N'hésitez pas à cracher dessus ou faire ce que vous voulez quand vous passez devant ou juste à côté. Ce groupe donc en 2018 a mobilisé 150 militants et militantes, 30 000 euros de budget et 2 hélicoptères. Alors, vous inquiétez pas, de la thune, ils en ont beaucoup, dans le but d'effectuer un contrôle aux frontières dans les Alpes, puisque les polices françaises et italiennes, selon eux, ne font pas suffisamment leur travail. Et éventuellement, de remettre dans ces conditions à la police d'éventuels clandestins, c'est comme ça qu'ils les appellent, ce dont d'ailleurs, ils se sont officiellement félicités après l'opération pour, a priori, 7 clandestins. Ce qui est normalement illégal et pénalement répréhensible par le code pénal pour activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique. En août 2019, 3 responsables de Génération Identitaire, dont Romain Espineau, un Lyonnais, ont été condamnés à 6 mois de prison ferme, 2000 euros d'amende par personne et privation de leurs droits civiques pendant 5 ans, ainsi qu'une amende de 75 000 euros pour Génération Identitaire. Sauf que, bon, normal, ils font appel tous les 3. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont été relaxés par la cour d'appel de Grenoble ces jours-ci. Alors, loin de nous l'idée de quémander quoi que ce soit de juste à cette justice de classe, qui n'hésite pas, à l'inverse, à condamner parfois lourdement, voire très lourdement, des militants pour délit de solidarité. Oui, ce délit existe. Mais quand même, on note que les fachos sont, une fois n'est pas coutume, relaxés quand ils devraient être condamnés. Une affaire de plus qui nous montre encore et toujours la nature profondément raciste et historiquement raciste de l'État français.
Et on enchaîne avec une petite pause musicale avec le morceau Rap Save the Queen du groupe IRA.
Pris conscience de l'impasse dans laquelle nous étions. Un militant ne remet pas en question sa cause. La force d'une conviction écrase toutes les preuves de sa réfutation. La jamais cessé de nous ramener à notre réalité identitaire, et ce depuis l'accession de l'Algérie à son indépendance. Doit-on incriminer ou féliciter toutes celles et tous ceux qui, de l'intérieur ou de l'extérieur de l'État algérien, dans la rue ou dans les administrations, rabaissent notre algérianité au rang d'une
La critique ya peca, mi antipática, pues bien, quien conoce su verdad la sabe tétrica, de métrica caótica, de prosa y de poética, de mañanas histéricas y noches taquicárdicas. Lo escribo, pues claro, ¿y tú qué harías? ¿A quién traicionarías a cambio de la gloria? Escribo lo que no escuchaste un día. Tu conciencia tranquila solo es síntoma de tu mala memoria. Sus rapis y si quieren que me ría. El que peor lo hace dice no lo hace mal para ser tía. Ya te gustaría, por eso ladra tanto. El que iba para crítico pero se quedó en tonto. Ah, volveremos en algún momento, a escupir en su palacio de difuntos. Que el aire es como Gandalf, que ni tarde ni pronto. Cuando se lo propone se presenta y punto.
Lo tu beats y la queen de este beat. Brindamos por lo bueno que nos queda por vivir. En tu camerino lleno de voz y hachís. Deja paso hasta lunática, nos vamos a servir. No te concedo los silencios de este show. Tu rap nos comió el coño cuando aparecimos. Esto es rap, no rap femenino, rap. Aunque te jodas, pardillo, y bla, bla, bla. Nos aconsejan cómo hacerlo, cómo pillar el micro y petarlo en un concierto. Esas chavalas van a llegar lejos. En serio, primo, eso ya lo sabemos.
Nos dan la palmadita sin quitarse la medalla, porque pa' ellos nunca, nunca hay fallo en la batalla. No sabrán reconocer que revientas el panorama sin esa coletilla de esta buena la pava. Está buena la pava, sin esa coletilla de está buena la pava. Está buena la pava, sin esa coletilla de está buena la pava.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et vous écoutez toujours le Canu Info du lundi. Et vous venez d'écouter presque entièrement Rap Save the Queen. D'Ira.
Avec donc un petit mix par DJ Canu Info du lundi soir.
Voilà, et Ira, donc, c'est un groupe de féministes antifascistes espagnols. Si vous voulez, il y a plein d'autres titres qui sont cool.
Et on passe à nos trois reportages du local.
Oui, on commence par un reportage tourné mardi lors du rassemblement devant la Touring City pour soutenir deux cheminots qui passaient en
conseil de discipline.
Merci.
De rien.
Bon, chers collègues et chers camarades, alors tout d'abord, bravo à tous et vous êtes en nombre aujourd'hui ici. Ce matin, il y avait du monde à Saint-Gervais devant la gare concernant Lionel. Donc ce sont deux jolis rassemblements ce matin pour défendre des salariés. Bon. Deux militants CGT de la CGT passent ce jour en conseil de discipline. Joël, que tout le monde connaît ici, et Lionel du sectoral qui est présent à côté de nous. Joël risque le dernier avertissement avant radiation des cadres, pour une traversée des voies dans le cadre de son travail, pour faire partir un train à l'heure et pour ne pas avoir signé le registre de sécurité alors que l'entreprise elle-même n'arrive pas à gérer son registre auprès de l'ensemble de ses agents. Lionel, quant à lui, risque la radiation des cadres pour avoir permis à sa famille de soi-disant coucher une nuit au foyer de Valorcine, ce qu'il conteste par ailleurs. Pour ces deux camarades, les sanctions demandées sont tout simplement inadmissibles. Pour nos deux camarades, il s'agit d'une tentative de la direction de réprimer par la sanction disciplinaire leur activité syndicale. La CGT n'acceptera pas qu'en pleine période de confinement, à quelques jours des fêtes de fin d'année, que le manque d'humanité et l'acharnement d'un directeur d'établissement conduisent à jeter en pâture et dehors de l'entreprise notre camarade du secteur Alpes. La CGT n'acceptera pas non plus que Joël se voit infliger une sanction démesurée. Nous n'accepterons pas que les cheminots constituent la variable d'ajustement pour faire passer par la force une politique capitaliste destructrice de notre outil de travail.
Les cheminots répondent résistance. À ceux qui veulent mettre une sanction à Joe, les cheminots répondent résistance.
Ils répondent quoi?
Résistance.
Encore une fois.
Résistance.
Donc bon, ben moi c'est Denis, donc je suis cheminot à la gare de Pardieu depuis un certain nombre d'années. Ça fait 10 ans que je suis à la SNCF.
Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'on fait là? Est-ce que c'était ce rassemblement?
Pour notre part, un collègue de la gare qui s'appelle Joël, qui travaille en gare de Pardieu depuis 10 ans, qui est un militant connu et reconnu de la CGT dans l'entreprise, mais qui est aussi gilet jaune, qui est aussi proche de l'extrême gauche, et qui est de toutes les luttes et identifié comme tel, et qui a la spécificité d'être très connu en gare pour être de tous les combats, y compris ceux des plus démunis de la gare, c'est-à-dire pas forcément ceux qui sont au statut cheminot, mais beaucoup aussi les prestataires, de la dame pipi jusqu'à la sécurité en gare, le ménage, etc. Ben, il est quand même connu pour être celui qui va gueuler chez notre patron à nous pour les conditions de travail de ceux qui bossent et qui sont sous-traitants. Ce copain-là a donc reçu une convocation pour un entretien, enfin un conseil de discipline. En fait, il nous donne une sanction qui est la sanction max qui risque. Et cette sanction, c'est dernier avertissement avant révocation. Concrètement, ça veut dire qu'à la première sanction, il risque la porte. Clairement, ce qui s'est passé en gare à ce moment-là, c'est que la petite équipe militante qu'il y a autour de lui, bien sûr à la CGT, mais pas que, parce que c'est plus large que ça. Et ça regroupe aussi des camarades qui sont gilets jaunes aussi avec lui et qui ont l'habitude aussi de subir la répression de plein fouet pendant 2 ans, y compris dans la rue. Et ben, on a fait bouger les lignes. En fait, on a affirmé notre solidarité avec notre collègue partout et de tous les moyens, via une pétition, via un badge touche pas à mon Joe, que tout le monde s'est mis à porter dans la gare, prestataire inclus. En fait, on a isolé la direction pendant plusieurs semaines, et là, y compris l'encadrement de proximité qui se retrouve très en difficulté. Certains ont craqué, ils se sont mis en arrêt. Et aujourd'hui, on arrive avec une grève extrêmement suivie dans toute la gare et qui porte des revendications. Aujourd'hui, ils ont saucissonné la gare sous le prétexte que la concurrence arrivait. Aujourd'hui, il y a trois entités, une TGV, une Gare et Connexion dont les deux autres sont les clients, et TER. Aujourd'hui, cette désorganisation du travail, elle crée un chaos énorme en gare et on voit que tous les agents de la gare en fait se sont emparés du truc de Joe pour porter leurs revendications qui se passent chez eux. À titre d'exemple, les agents du guichet en gare Depardieu, aujourd'hui à partir du 6 janvier, ils ont une restructuration qui leur sucre 9 postes, 9 lignes de roulement. Donc en réalité c'est beaucoup plus d'agents, hein, puisque pour tenir une ligne il faut plusieurs agents. Et ben aujourd'hui ils étaient massivement en grève. Et que quelques CDD qui tenaient les postes, mais c'est tout. L'espace de vente était fermé ce matin quand je suis venu. Puis aujourd'hui, c'est ça, il n'y a plus un cheminot dans la gare. Et quand les gens en trouvent un, et ben effectivement, ils le gardent et puis ils se défoulent dessus. Et puis, enfin, on les comprend. Aujourd'hui, les seules personnes qui sont disponibles pour répondre aux voyageurs dans la gare, hein, face aux machines, etc., aujourd'hui, sont des vigiles de la société BSL, sous-payés, harcelés par leur direction, etc. Et des vigiles qui sont là et qui ont pris la parole au rassemblement de Joe. Je crois qu'on a fait une démonstration qui est très, très forte aujourd'hui. Et on s'arrêtera pas là.
Là, on est devant la tour InCity. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et on a entendu pas mal de sous-traitants prendre la parole. Tu estimes à combien à peu près le nombre de personnes qu'il y a eu ce début d'après-midi?
Je sais pas, il y a plus de 200 peut-être, 300, je sais pas. Il y a du monde, ça c'est sûr, c'est serré et les prises de parole ont été très écoutées. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive à créer une unité très large autour du cas de ce copain. Et puis on découvre en même temps en arrivant qu'il y a un autre camarade des Alpes qui passe lui aussi en conseil de discipline, qui est aussi un militant syndical de la CGT aussi des broutilles. On n'était pas spécialement au courant, mais il y a eu un rassemblement ce matin de soutien à Saint-Gervais, apparemment, où il y avait beaucoup de monde. Je pense que réellement, il faut s'appuyer sur ce truc-là, non seulement pour se défendre les uns les autres, mais pour que la boîte commence à avoir réellement peur qu'on demande des comptes sur nos conditions de travail à partir de là.
Tu disais que le taux de gréviste était à peu près comparable, tu disais à décembre dernier, au moment
de... Sur les feuilles de service, sur les feuilles de présence, il y a des... Il y a vraiment des... On appelle ça des chantiers chez nous, hein, le centre escale qui est un peu la tour de contrôle de la gare. Il doit y avoir deux titulaires sur toute la journée, deux prises de service pour les agents de la plateforme aussi qui font encore le départ de quelques trains, ce qu'ils n'ont pas réussi encore à automatiser. Bah eux c'est pareil, ils sont deux prises de service sur toute la journée. La vente, le guichet, c'est un raz-de-marée. Donc voilà, on a quand même un rapport de force qui est très impressionnant et je pense qu'il surprend énormément la boîte.
Eh bien c'est super, nous on restera informés, du coup a priori on aura des news d'ici un mois, c'est ça?
D'ici un mois maximum.
Merci, allez, bon courage.
On est là, même si InCity ne veut pas, nous on est là. Pour défendre l'air de jour et l'avenir des cheminots, même si InCity ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si InCity ne veut pas, nous on est là. Défendre l'honneur de Joe et l'avenir des cheminots, même si tu veux pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là, même si tu veux pas, nous on est là. Pour défendre l'honneur de Joe et l'avenir des cheminots, même si tu veux pas, nous on est là.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu.
Et on est là.
Le Canu Info du lundi, qui est là? Et on enchaîne au local avec un reportage encore sur le rassemblement devant le CRA de Lyon-Saint-Exupéry, le centre de rétention administrative.
Voilà, pour le coup, ça c'était mercredi.
On était partout.
Plusieurs dizaines. On était là, oui. Et pour une fois, on n'était pas le seul média, puisqu'il y avait même BFM TV. Chose
rare. Des confrères, finalement.
Ouais. Mais en tout cas, nous, on était là, mais on sait que vous y étiez sûrement pas. Du coup, vous avez gagné 3 minutes de reportage sur le rassemblement. Vous allez entendre donc les slogans, les traditionnels appels aux prisonniers de l'intérieur, des petits échos des détenus qui nous criaient derrière les plusieurs grilles et les barbelés. Et puis, une membre du CSP qui parle aussi brièvement.
Les flics et les matons, et en bas, les crans, les flics et les matons, et en bas, les crans, les flics et les matons, et en bas.
Bah, on est là pour soutenir les sans-papiers qui sont dans les CRA, qui sont considérés actuellement comme des prisonniers, pour la simple raison qu'ils se sont trouvés en France ici, sans-papiers.
Madame, bonsoir, je suis albanais, je fais un mois ici. T'as compris?
Ouais, tout le
monde t'écoute. Je finis ma prison, ma peine, et me garde ici encore un mois, 2 mois. T'as compris?
Ouais.
C'est la même. Pourquoi me garde ici? T'as compris? C'est incroyable ici, c'est très mal. T'as compris?
Ouais.
Tout nous mange pas bien, reste comme connard ici. La vie de ma mère ici, c'est la merde. C'est clair?
Ouais.
C'est tout sale, dégueulasse. Et c'est pas bien. On ne dort pas bien. Les gens, il y a du vol tous les jours, entre l'eau. C'est la merde, madame. C'est la merde. Comment je vais expliquer ça?
Ni paf, ni raf, ni prison, ni expulsion. Ni paf, ni raf, ni prison, ni expulsion. Ni paf.
Liberté égale fermeture des CRAS, égalité, ça veut dire la régularisation de toutes les sans-papiers et la fraternité pour nous, c'est à toi pour tout.
D'accord.
Tout ou bien tous.
Et c'est quoi le CSP 69?
Le CSP, c'est le collectif des sans-papiers de Lyon. Normalement, ça a été créé juste après la dernière manifestation, celle du 20 juin. Voilà.
Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments.
On est revenu à l'antenne, vous êtes toujours sur Radio Canu et vous écoutez toujours le Canu Info du lundi. Et on va écouter notre troisième reportage justement.
Oui, donc la semaine était bien chargée puisque vendredi soir, il y avait aussi un rassemblement organisé par le collectif des sans-papiers 69 qu'on a déjà entendu dans le reportage précédent et le collectif de soutien aux sans-papiers de Lyon. Et puisque c'était donc le 18 décembre, journée internationale de solidarité avec les migrants et migrantes, il y a lieu d'ailleurs une grosse manifestation aussi à Paris ce jour-là et dans plusieurs autres villes en France. Et on va entendre quelques extraits de la manifestation à Lyon qui a été déjà réprimée par la préfecture puisqu'elle devait... Ça devait être une manifestation en centre-ville et ça s'est transformé en rassemblement place Gabriel Péri, puisque la préfecture a refusé la manifestation.
Alors on va voir tout de suite si ça marche parce que j'ai l'impression que ça bug. Et donc ça ne marche pas parce que le son est en wave et le wave ça passe pas sur la clé USB.
Voilà, c'est toujours le Canu Info du lundi hein, qui a des problèmes techniques à peu près toutes les semaines. Mais
un jour,
on va y arriver et ce jour ce sera en 2021. Vous allez voir, il y aura pas de problème technique, il y aura les bonnes musiques, les bons jingles, on sera au top.
Et du coup pour écouter le reportage qu'on peut vous proposer, c'est d'aller sur notre blog. Et voilà, vous tapez Canu Info sur Google. Et vous trouverez
le blog du Canu
immédiatement
Info.
Immédiatement le blog du Canu Info.
De toute façon, il est moins. Vas-y.
Sur lequel on mettra ce reportage en wave.
De toute façon, il est moins 20, donc va bientôt falloir qu'on se casse nous aussi, puisqu'il y a ce putain de couvre-feu.
Voilà.
Exactement.
Et donc, on n'a pas d'agenda. Donc, je crois qu'on va vous dire à l'année prochaine, puisqu'on fait une pause.
Mais personne n'est déprimé dans l'équipe du Canular.
Non, personne n'est déprimé.
Non, mais moi, depuis que je suis au courant de ce nouveau virus mutant qui se propage beaucoup plus rapidement en Grande-Bretagne, franchement, je trouve que c'est une bonne fin d'année. Ça m'a donné la patate. Je me dis, ouais, on va pouvoir avoir des vrais bons confinements en 2021. Et ça fait zizir.
Et voilà. Et donc, à l'année prochaine.
Kaç yıl attı biri Lakon üç yılı Hoppa tuppa Sinemen de çiçeğim Kaç yıl attı biri Lakon üç yılı Lumbay 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 la Haydi 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 Show that
d'entendre Balkan Beatbox avec Digital Monkey. Ensuite, c'était Fanfare Tchokarlia avec Bunitsa Batetoba. Et enfin, Zone d'Orgo avec Opa Tsupa. Radio Canu, la plus balkane des radios.
Et on est de retour à l'antenne avec le Canu Info du lundi qui ne veut pas partir. Profiter du couvre-feu, mais surtout qui fait des conversions en MP3 plus rapidement que l'éclair. Enfin, je crois.
Un petit peu plus longtemps quand même.
C'était donc...
En tout cas, on a repris l'antenne parce qu'on a converti le fichier en MP3.
Voilà, on est parti pour un nouveau bec technique.
Et donc, il faut meubler un petit peu en attendant. Donc, on est plutôt bon pour meubler. Hein.
Qu'est-ce que vous allez faire pour les fêtes?
Mais ils t'entendent pas, putain.
Oula, ils m'entendent pas.
Et alors que nous attendons toujours le fichier en bon format...
Qui je crois est là. On essaie ?
Incroyable.
Allez.
Notre collectif a été créé pendant le mois de juin. On a fait le premier acte le 30 mai, le deuxième acte le 20 juin. Et le troisième acte et le plus important, c'est la marche nationale depuis 19 septembre jusqu'à 17 octobre. Et on a fait la grande manif nationale à Paris le 17 octobre. Une autre revendication, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, sans exception, le logement pour tous et toutes, et la fermeture des centres de rétention administrative. On ne lâche rien, on va continuer notre lutte jusqu'à la fin.
Solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les sans-papiers.
Je fais partie du collectif 69 du Lyon. Je vous informe qu'on a été reçu cet après-midi par la mairie principale parce qu'on avait des revendications à proposer. On avait demandé la facilité à l'accès faciliter l'accès à l'emploi, d'avoir une carte de citoyenneté municipale, l'accès à l'université et bénéficier de formations et d'autres.
Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.
Contre la politique du gouvernement, ce que nous attendons des collectivités territoriales, c'est qu'elles agissent clairement en soutien aux revendications que nous défendons depuis plusieurs années. Nous exigeons le droit au logement décent pour tous. Cela implique la réquisition des locaux vides et aussi la création massive de logements sociaux, le blocage des loyers, des mesures contre la spéculation qui se poursuit pour permettre à tous d'accéder à un logement décent.
Nos expulsions, réquisitions.
Enfin, notre collectif s'est prononcé clairement en défense de la jeunesse contre les attaques des jeunes étrangers sans famille. La traque de l'institution se poursuit.
Vraiment, on veut que tout ça, ça s'arrête. Les TSOC, non à au TSSO, non aux convocations systématiques à la PAF, non à l'évaluation en fait, des mineurs, qui est une évaluation qui est basée sur des pièges. En fait, les jeunes sont piégés quand ils font leur évaluation. On les fait répéter des choses pour les faire dire ceux qui n'ont pas vécu, ceux qui n'ont pas pu dire, voilà, pour les mettre dehors. J'ai dit.
Cette traque conduit à des OQTF et même à l'envoi de jeunes en prison. Ces entraves aux droits des mineurs, dont se rendent responsables les collectivités, doivent cesser.
Et papier pour tous les jeunes et courage pour tous, la lutte continue.
Et on est toujours là, et on vous redit au revoir.
Mais c'est pour vous dire qu'on s'en va.
Voilà. Et on se retrouve le lundi 4 janvier 2021. Eh ouais.
Voilà. Joyeux Noël, bonne année.
On n'a pas parlé, mais...
Rendez-vous le 4 janvier.
Et à l'année prochaine.
Your meanness. Radio Canu, la plus cosmique des radios. On a écouté un premier morceau de 1983 des Honeymoon Killers. Après, on allait écouter Turzy, ça plutôt plus récent, de 2009. Et après, on a terminé par un morceau de Christina de 1981. Radio Canu 102.2.